إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله تبارك وتعالى نواصل دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. فنشرع اليوم في باب أو في قراءة باب الزكاة والصيد. باب الزكاة والصيد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الزكاة هي ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين ونحوه. أعيد: الزكاة هي ذبح الحيوان المباح المقدور عليه بسكين ونحوه. والصيد هو اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه كالذباء ونحوها. Donc nous poursuivons بإذن الله عز وجل l'explication de منهج السالكين de l'imam السعدي رحمه الله تعالى avec le شرح du شيخ سليمان القصير حفظه الله. Et nous entrons aujourd'hui dans un nouveau chapitre qui est celui de l'abattage et de la chasse. De l'abattage et de la chasse. طيب. يجي الشيخ سليمان حفظه الله تعالى الزكاة donc الزكاة qu'on traduit ici par l'abattage eh bien c'est le fait de sacrifier hein, ou le fait de, d'abattre la bête hein, en l'égorgeant une bête qui est licite à la consommation et que l'on est dans la capacité يعني d'attraper et d'égorger. Cette bête on appelle حيوان مباح مقدور عليه. حيوان donc une bête, un animal qui est مباح donc qui est licite à la consommation et qui doit être مقدور عليه. On est capable d'attraper et d'égorger. طيب بسكين avec un couteau ou autre que cela. يعني parmi les instruments ou les outils qui s'y apportent. طيب. Quant au terme الصيد, il dit le Cheikh فضل الله تعالى, la définition de الصيد dans la religion d'Allah تبارك وتعالى, c'est la chasse aux animaux qui sont aussi licites à la consommation, qui sont de nature sauvage. Et avec lesquels on n'a pas la capacité de les attraper pour les égorger. Tels que les antilopes. Et autres que cela parmi les animaux et animaux sauvages. Donc je répète, as-saydou, la chasse, eh bien c'est le fait de poursuivre, de pourchasser un animal licite à la consommation, de nature sauvage, et qu'on ne peut pas donc attraper pour l'égorger, tel que l'antilope, hein, et autre que cela. قال الشيخ الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء. أي إن جميع الحيوانات البرية لا تباح بدون الذكاء. لقول الله تعالى لما ذكر المحرمات والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم أي إلا ما قدرتم عليه وذكيتموه حيا قبل أن يموت فيحل. Donc il continue ou il commence donc l'auteur rahimahullah en disant les animaux qui sont licites, yani licites à la consommation que l'on peut manger, ne sont pas permis à la consommation sans ce qu'on appelle al-zakat, sans l'abattage, sans l'égorgement, tayyib, légiféré. On appelle al-zakat. Je rappelle que al-zakat, c'est ça. C'est le fait d'égorger la bête licite à la consommation que l'on peut attraper pour l'égorger avec un couteau et autre que cela parmi ceux qui s'y apparentent. Donc, tous les animaux qui sont licites à la consommation, on ne pourra les consommer qu'en les sacrifiant, qu'en les égorgeant. Donc, tous les animaux terrestres ici, on parle d'animaux qui vivent sur la terre ferme, ne seront licites à la consommation sans cette condition-là qui est al-zakat, qui est l'égorgement. L'abattage rituel. T'as vu? Est-ce que c'est clair? C'est quoi que j'ai pas compris?
T'as dit des animaux terrestres?
Qui vivent sur Terre, ouais.
Ils sont mis à la consommation sans l'abattage ou avec?
Non. Ils ne seront licites à la consommation que s'ils sont égorgés de manière légiférée. Mmh. Ou sacrifiés ou abattus de manière légiférée. C'est bon? Et c'est là par rapport à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens du verset, lorsque Allah tabarak wa ta'ala a mentionné justement les choses qui nous sont interdites à la consommation. Dans la surat Al-Ma'ida, le verset numéro 3, Allah tabarak wa ta'ala, il dit: Na'am. Il vous est interdit de consommer la bête morte, yani sans avoir été sacrifiée, le sang, la viande de porc, les animaux pour lesquels on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête morte étouffée ou frappée, ou suite à une chute ou un coup de corne, et celle partiellement dévorée par un prédateur, sauf si vous les égorgez avant qu'elle ne meure. Sauf si vous les égorgez avant qu'elles ne meurent. Taïe ? C'est-à-dire, toutes ces choses sont interdites, sauf les bêtes que vous avez pu attraper pour les égorger et que vous avez donc égorgées alors qu'elles étaient encore vivantes. C'est-à-dire que vous les avez égorgées avant qu'elles ne meurent. Donc si vous faites cela, la viande de cette bête-là sera licite à la consommation. Wadih ? نعم الحمد لله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد أي فيحل بلا تذكية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد الحديث وقد تقدم في الطهارة. Puis dit l'auteur, donc je répète, les animaux licites à la consommation ne seront licites que si elles sont donc égorgées, comme il se doit, sauf excepté as-samak wal-jarad, le poisson et la sauterelle. Le poisson et la sauterelle. Donc le poisson et la sauterelle seront licites à la consommation même sans égorgement. D'accord ? Sans abattage rituel. Cela en vertu du hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sont licites deux animaux morts et deux sangs. Quant aux deux animaux morts, ce sont le poisson et la sauterelle. Donc le poisson et la sauterelle, yani, tu n'es pas dans l'obligation de les égorger pour pouvoir les manger. Ils sont licites à la consommation, même si tu les trouves, yani, morts. Vous voyez? Le hadith. Le hadith qu'on a déjà vu donc dans le chapitre de At-Tahar.
La sauterelle, t'es pas obligé d'égorger pour la manger.
Non, non. Comme le poisson. C'est bon? طيب ويشترط في الذكاء أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم أخرجه البخاري تعليقا والبيهقي موصولا ومفهوم الآية أن الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته وهذا بالإجماع وكذلك لا بد أن يكون المذكي مميزا عاقلا فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية لعدم العقل فيهم في جلوت رحمه الله تعالى en commençant à mentionner les conditions justement de l'égorgement, les conditions du sacrifice ou de l'abattage rituel. Première condition, il faut que le sacrificateur, celui qui abat la bête, la personne qui abat la bête, il faut qu'elle soit musulmane ou faisant partie des gens du livre. Musulmane ou faisant partie des gens du livre, c'est-à-dire chrétienne ou juive. D'accord? Et cela par rapport, dit le Cheikh, à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Al-Ma'ida, dans le sens du verset numéro 5. Naam. Donc, aujourd'hui, toutes les bonnes choses vous sont permises, ainsi que la nourriture des gens du livre. Tout comme votre nourriture l'est pour eux. D'accord? Vous sont permises la nourriture des gens du livre. Il dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, cela veut dire que leur nourriture, c'est-à-dire leur sacrifice. D'accord? Leur nourriture dans le sens... leur sacrifice, les bêtes qu'ils sacrifient, qu'ils égorgent, vous sont licites. Le hadith, donc de Ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari, ainsi que le Bayhaqi, na'am, et ce que l'on doit comprendre de ce verset, est que le mécréant, autre que les gens du livre, donc si c'est un sacrifice qui provient d'un mécréant, mais qui n'est ni juif, ni chrétien, eh bien ce sacrifice ne nous sera pas licite à la consommation. Et cela à l'unanimité des savants de l'islam. Autrement dit, si un bouddhiste, par exemple, sacrifie une bête, la chair ou la viande de cette bête ne sera pas licite pour les musulmans. Il faut que ce soit un mécréant parmi les gens du livre. Taïeb, est-ce que c'est clair?
Si un mécréant parmi les gens du livre, ça qui est bête, tu peux l'avoir.
Non. C'est bon? Classe. Et également, il faut que celui qui sacrifie, la personne qui sacrifie, soit bien sûr doué de raison et soit moumayyiz, c'est-à-dire qu'il ait atteint un âge de tamyiz, on appelle le tamyiz, de distinction. Hein? Il est atteint un âge qui lui permet de comprendre ce qui lui est bénéfique, ce qui lui est nuisible, d'accord? De comprendre les questions qu'on lui pose et de répondre. Taïeb? Ça veut dire que le sacrifice de quelqu'un qui a été fait par quelqu'un qui n'a pas sa raison, un sacrifice qui a été fait par un fou, un majnoun, ou par quelqu'un qui est sous, ou par un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la distinction, at-tamyiz, eh bien, ce sacrifice-là ne sera pas licite à la consommation, car ils ne peuvent pas avoir cette volonté, cette intention de sacrifice et d'abattage rituel à cause du fait qu'il n'est pas la raison nécessaire pour cela. Est-ce que c'est bon? طيب. الشرط الثاني وأن يكون بمحدد وأن يكون بمحدد المحدد هو الحاد الذي يقطع أو يخرق بحده لا بثقله من أي شيء كان سواء أكان من حديد أو حجر أو خشب ونحوها ما عدا السن والظفر لحديث رافع ابن خديج الآتي وفيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس الثن والظفر. Deuxième condition, il faut que l'abattage rituel se fasse avec quelque chose qui est muhaddad, un outil qui est muhaddad, c'est-à-dire un objet tranchant. D'accord? Un objet tranchant, donc qui coupe ou qui déchire, de par sa lame, d'accord? Qui coupe ou qui déchire de par sa lame. Et pas de par son poids ou sa lourdeur, mais de par sa lame tranchante. D'accord? Quel que soit cet objet tranchant, ou quel que soit le matériel dont il est fait.
On peut couper avec une scie ou...
Non, ça coupe. T'as vu? Donc, ce soit du fer, ou un objet tranchant fait de pierre, ou fait de bois, quel que soit le matériau, tant qu'il, justement, tranche, il est aiguisé, pointu ou tranchant, cela est permis. Excepté tout ce qui est fait en matière, il y en a de dents. La dent, c'est interdit. Il y en a tranché la gorge d'une bête avec une dent, ou, comme on dit certains savants, avec un os aiguisé, c'est interdit, et également avec les ongles. Les ongles, c'est également interdit. Taïeb ? Non. Et c'est là par rapport au hadith Rafi' ibn Khadij al-Ati. D'accord ? Dans ce hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui fait couler le sang et sur lequel on a mentionné le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, mangez-le. Tant que ce n'est pas une dent ou un ongle. D'accord ? Tant que cet objet-là n'était pas une dent ou un ongle. C'est bon ? Alhamdulillah. الشرط الثالث وأن ينهر الدم وأن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام ويقطع الحلقوم والمريء لأنه أبلغ في إنهار الدم ولقول عمر رضي الله عنه إن النحر في اللبة والحلق أخرجه ابن أبي شيبة ولحديث ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال المنذري في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وقد تكلم في غير واحد أي إنهم ضعفوه. Troisième condition, il faut que cet objet-là fasse couler le sang, c'est-à-dire en coupant, en sectionnant ce qu'on appelle al-hulqoum wal-mari. Donc al-hulqoum, c'est quoi al-hulqoum? C'est les voies respiratoires ou la voie respiratoire. Donc, il faut que le sang soit coulé, qu'on fasse couler le sang en sectionnant el hulqoum, c'est-à-dire la voie respiratoire de la bête, et el mari, c'est-à-dire la voie de la nourriture, yani l'œsophage. Il faut couper la voie respiratoire et l'œsophage. L'œsophage, c'est donc le conduit qui amène la nourriture à l'estomac. D'accord? Donc, il faut couper ces deux voies-là. Al-hulqoum ou al-mari. Car ce sont, yani, la méthode la plus efficace pour faire couler et vider la bête de son sang. Voyez. Et cela par rapport à la parole de Omar, radiallahu anhu, qui a dit que al-nahr, l'égorgement, se fait entre al-labba ou al-haq. Entre donc, le haut de la gorge et, ou plutôt, entre le al-labba, c'est le haut de la poitrine, donc le bas de la gorge, et le haut de la gorge. Voyez. Hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, et également le hadith d'Ibn Abbas et d'Abi Huraira, radiallahu anhuma, qui ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit le sacrifice de shaitan. Le sacrifice de shaitan, c'est-à-dire le fait de mal, justement, sectionner ses voies, les voies respiratoires et l'œsophage, de ne pas bien les sectionner, et de commencer à enlever, à découper la peau de la bête alors qu'elle n'est même pas encore morte. Alors qu'elle n'est pas encore morte à cause du fait que justement ces deux veines ou ces deux conduits qui doivent être coupés convenablement et correctement, hein, n'ont pas été justement sectionnés de manière correcte et comme il se doit. C'est pour ça qu'il dit « Wala tufral awdaj » yani le fait que ces veines-là n'ont pas été coupées. D'accord ? N'ont pas été coupées. Et puis donc, on laisse la bête comme ça jusqu'à ce qu'elle meure. Là. Hadha la yajuz. Hadith rapporté par Abu Dawood, authentifié par Ibn Hibban. Ainsi que le Hakim. Et l'imam al-Mundhiri, rahimahullah, a dit que dans la chaîne de transmission, on a Amr ibn Abdullah San'ani. Et il a été donc rendu faible par plus d'un savant du Hadith. Taïm. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alhamdulillah. الشرط الرابع هو أن يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولحديث رافع بن خديجة المذكور. Quatrième condition, il faut que le nom d'Allah تبارك وتعالى ait été mentionné lors de l'abattage. Et cela par rapport à la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala, dans la surat Al-An'am, dans le sens du verset, Allah tabarak wa ta'ala, il dit, ne mangez pas des sacrifices sur lesquels le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Ne mangez pas des sacrifices sur lesquels le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Également le hadith de Rafi' ibn Khadij, que l'on a évoqué tout à l'heure. طيب. C'est bon. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. أي ويشترط في الصيد ما يشترط في الذكاة إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه وذلك إذا رمى الصيد بسهم أو بندقية فأصاب جنبه أو رأسه ومات من السهم أو الرصاص فإنه يباح وذلك لحديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ أخرجه البخاري ومسلم. Donc on a vu les quatre conditions. Il dit le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, wa rahima. Et on a les mêmes conditions en ce qui concerne les gibiers qui sont chassés. D'accord ? En ce qui concerne les gibiers qui sont yani, chassés. Sauf que ces gibiers qui sont chassés et yani, que l'on chasse pour justement les consommer, il se peut qu'il soit licite en étant blessé à un endroit, ou quel que soit l'endroit, sur leur corps. Il se peut que ces bêtes, lorsqu'elles sont donc blessées ou atteintes ou touchées à un des endroits de leur corps, cette bête-là sollicite. Ça, c'est une chose qui est propre au gibier chassé, donc à la chasse. C'est pour cela qu'il dit les chers, c'est les mains, hafidhahullah ta'ala. Donc, cela est une condition dans la chasse. Premièrement, déjà, on a toutes les conditions, les quatre mentionnées pour la bête, yani, qui n'est pas chassée, donc qu'on a attrapée et qui est à notre disposition pour qu'on puisse les sacrifier comme Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Donc pour les gibiers qui sont chassés, on a les mêmes conditions. Que le sacrificateur soit musulman ou parmi les gens du livre, avec un objet tranchant, que les voies respiratoires et l'œsophage soient tranchés, ainsi que l'on évoque, il mentionne le nom d'Allah tabarak wa ta'ala. Sauf que pour les gibiers chassés, il dit les chers qu'ils sont aussi licites, même s'ils ont été touchés à un autre endroit du corps. C'est-à-dire que si le chasseur a touché la bête à l'aide d'une flèche, par exemple, ou la balle d'un fusil, et que cette balle ou cette flèche a atteint le flanc de la bête, et pas le cou, donc, mais juste le flanc, ou sa tête, ou son cœur, ou autre, et que la bête meurt à cause de cette flèche ou de cette balle tirée par ce fusil, eh bien, elle est quand même licite à la consommation. Et c'est là par rapport au hadith de Adi ibn Hatim qui a dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet justement de la bête qui a été tuée par Al-Mi'rad. Al-Mi'rad, c'est un genre de javelot ou une lance avec une pique au bout, d'accord? Et il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: donc, ce que la lance a touché de par sa pointe, mange-le. Mais si la bête a été touchée par le flanc ou le côté du javelot ou le côté de la lance, eh bien, et qui a été tuée, donc pas en étant blessée, en étant ouvert, eh bien, ça sera une bête qui est morte et qui n'a pas été tuée de façon religieuse, légiférée. D'accord ? Ce sera donc un cadavre, une bête illicite à la consommation. Hadith rapporté par Al-Bukhari aussi. C'est bon?
Tu veux dire les sols lucides, les sols lucides?
Non. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu lances une lance, justement, d'accord? Si la bête, elle a été tuée par le bout de la lance, quelle que soit la partie du corps de la bête, le cœur, la tête, n'importe quelle partie, c'est licite. Mais si elle a été tuée par juste le fait que elle a été frappée par le pas par la pointe de la lance, mais par le bâton. D'accord? Elle n'a pas été ouverte par la pointe, parce qu'il est tranchant, qui est pointu. Dans ce cas-là, la bête, elle n'est pas licite.
Je sais, si je frappe un bâton, même si elle meurt sur le coup.
Voilà, c'est pas licite ça. D'accord? Il faut qu'elle ait été touchée par la pointe tranchante, d'ailleurs, coupante de l'arme. D'accord? C'est ça qu'il veut dire. Mais sinon, quel que soit l'endroit de la bête qui a été touché, le flanc, la tête, le cœur, comme on a dit, etc., s'il a été tranché par cet objet, que ce soit une flèche ou une balle de fusil, la bête est licite à la consommation. Parce que c'est bon. D'accord? Alhamdulillah. Taïb, naksafi bihada, inshallah, va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on terminera donc la seconde moitié de ce chapitre-là lundi prochain, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.